On trouve au début de l'évangile de Marc, tout au début du ministère du Christ, un chapitre que nos Bibles intitulent en général « Guérisons diverses » ou « Petites guérisons ». Texte extrêmement difficile parce qu'on lui prête en général peu d'importance. Et là-dedans, parmi ces petites guérisons, se trouve la guérison de la fièvre de la belle-mère de Pierre, ce qui ne nous préoccupe pas beaucoup, il faut bien le dire. Alors certes, il est bien que l'on présente Jésus dès le début de sa mission comme étant quelqu'un qui guérit. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Jésus arrive et la première chose qu'il fait, c'est de faire du bien, c'est de soulager, c'est de sauver et de libérer. Et donc c'est effectivement le début d'une bonne nouvelle. Jésus est présenté dès le départ comme celui qui peut vous faire du bien dans les grandes choses, certes, puisqu'il nous ressuscite pour dans les lieux éternels, mais aussi dans les plus petites choses. Et donc j'ai une tendresse particulière pour ces petites guérisons du départ. Alors certes, elles ne sont pas très spectaculaires, et il y a dans l'Évangile des guérisons beaucoup plus importantes, la guérison de l'aveugle-né, la guérison des 10 lépreux, la résurrection de la fille de Jaïrus ou de celle de Lazare, alors que là, ces petites guérisons ont un côté, je dirais, un petit peu anecdotique, qui fait que la plupart des commentateurs s'en désintéressent totalement. Et voire même, concernant cette histoire de la guérison de la belle-mère de Pierre, les commentateurs disent en général, je résume d'une façon sans doute un peu malhonnête, ça n'a à peu près aucun intérêt, mais c'est probablement un souvenir autobiographique de Pierre, ce qui fait que certains pensent que l'évangile de Marc aurait probablement Pierre comme auteur, et que bon, il raconte un peu sa vie. Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais ça ne me plaît pas du tout. Je me refuse à penser qu'il y aurait dans l'Évangile des passages d'importance secondaire. Et je me refuse à penser que nous prendrions pour parole de Dieu des souvenirs autobiographiques. On peut lire toutes les autobiographies qu'on veut, mais là, ce n'est pas de l'autobiographie dont il est question, c'est de la bonne nouvelle, c'est de la parole même de Dieu. Et surtout dans l'évangile de Marc, qui est le plus concis, Marc va toujours directement à l'essentiel. Marc qui comporte dans nos Bibles 30 pages à peine, c'est lu en 10 minutes. Et donc Marc n'a pas de place pour l'anecdote, et encore moins pour mettre dans son évangile, avant les choses sérieuses, des sortes d'apéritifs évangéliques où Jésus ferait des petites guérisons. Alors, effectivement, ici, on nous raconte ces petites guérisons, dont la fièvre de la belle-mère de Pierre. Je suis ravi pour le confort de Madame Pierre, je ne sais pas comment elle s'appelait d'ailleurs, sa belle-mère, enfin, Madame belle-mère de Pierre, mais ça n'a pour nous à peu près, je vous disais, peu d'intérêt. Et s'il ne faut pas en rester là. Alors vous disais-je, il y a plusieurs choses à faire là-dedans. Soit on prend toutes ces petites guérisons en vrac, et en disant, comme je vous l'ai dit à l'instant, l'intérêt c'est globalement de dire que Jésus se préoccupe même des petits soucis des gens. Parce que je rencontre parfois des fidèles, et j'ai moi-même la même tendance, qui se disent, oh ben, j'ai scrupule à penser que Dieu pourrait se préoccuper de moi, mes soucis, que sont-ils devant les grands soucis d'autres personnes ou devant la préoccupation de la gestion du monde entier? Eh bien non, justement. Vous voyez, le Christ se préoccupe, j'allais dire presque même d'abord, des détails et des petites choses. Et il n'y a aucun mal spirituel, affectif, psychique ou même physique qui soit secondaire dans nos vies. Et le Christ ne dit pas « vous devez faire le tri dans votre vie entre l'essentiel et le reste », mais chaque chose de notre vie est quelque chose qui est sous le regard de Dieu, et je crois que la bonne nouvelle de l'Évangile est une bonne nouvelle qui peut toucher jusque dans les moindres détails de nos existences. Donc il n'y a rien de méprisable, si vous voulez, dans nos vies, et la bonne nouvelle, elle n'est pas que pour les grandes choses, elle est aussi pour les petites choses. Mais cela dit, cela n'explique pas que, je dirais, comment, pourquoi le détail de chacune de ces guérisons, je ne pense pas qu'il faille les considérer toutes comme un bloc en disant ce sont des petites guérisons et le fait qu'il y ait des petites guérisons prouve qu'il n'y a pas de petits problèmes, tout problème est un problème. Il faut comprendre chacune de ces guérisons en soi-même comme un message complet. Et c'est ce que je voudrais faire avec cette guérison de la belle-mère de Pierre. Et j'ai une preuve de cela d'ailleurs, c'est que dans ce récit de Marc, donc il guérit la belle-mère de Pierre, et puis ensuite il va prier, et juste après Jésus dit « Allons ailleurs pour que j'y prêche aussi ». Allons ailleurs pour que j'y prêche aussi. Mais avant, il n'a pas prêché, il a juste guéri. Et donc ça doit nous mettre la puce à l'oreille et de comprendre que ces guérisons sont des prédications. Ces guérisons sont des messages. Ce n'est pas juste que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre et on est bien content pour elle. C'est que dans ce geste, il y a une prédication qui est faite, un message qui est donné et il y a quelque chose à comprendre là. Ça, c'est la base de toute la lecture de l'Évangile, d'ailleurs. C'est ce que dit saint Augustin, très justement, quand il dit « Jésus, il est la parole, non seulement dans ce qu'il dit, mais aussi dans ce qu'il fait. » Et autrement dit, chacun des gestes de Jésus ne sont pas à prendre en tant que tels comme des gestes, mais sont à comprendre comme des signes, c'est-à-dire comme des paroles, comme s'il y avait là quelque chose à comprendre. Pour dire les choses brutalement, chaque guérison, chaque miracle, chaque acte de Jésus est en soi une parabole qu'il faut comprendre. Ces actes sont à interpréter, et ça on le comprend, on le voit à plusieurs reprises, Jésus après avoir fait quelque chose, comme après le lavement des pieds, il dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait ?» Donc ce que fait Jésus, il y a là quelque chose à comprendre. Ou même juste après la multiplication des pains, il y a un dialogue entre Jésus et les disciples, et le texte nous dit « Les disciples n'avaient pas compris le geste de la multiplication des pains. » Donc, il y avait là quelque chose à comprendre. Autrement dit, il faut donc chercher à chaque fois, essayer de trouver quelle est la prédication qui se cache là-dessous. Et il y en a une. Alors, pour trouver ça, deuxième leçon de lecture biblique, que j'ai apprise de mes ancêtres protestants, et en particulier de Louis II, le célèbre traducteur de la Bible, dont nous utilisons encore la traduction. Louis II dit « Seule la Bible interprète la Bible ». Autrement dit, si on veut savoir un sens d'un passage, ce n'est pas la peine d'aller chercher les commentaires de l'un ou de l'autre, aller chercher dans la Bible elle-même la clé de lecture de ce passage. Et c'est pourquoi le vieux Second avait fait cette Bible à parallèle, qui doit se trouver encore chez vous si vous aviez des parents ou des grands-parents protestants, et à chaque verset, il mettait à côté tous les autres versets de la Bible qui ont un rapport avec ce passage-là, et c'est là qu'il faut trouver la solution pour comprendre le texte. J'ai donc sorti ma vieille Second à parallèle, et quand on nous dit que la belle-mère de Pierre avait la fièvre, eh bien, Second me dit, la fièvre, c'est quelque chose de répertorié dans l'Ancien Testament et on sait à quoi ça correspond. En fait, c'est assez rare. On parle très peu de fièvre dans l'Ancien Testament, seulement dans deux passages qui sont à peu près les mêmes, et en particulier en Deutéronome 28, au verset de 15 à 22, quand il est question des malédictions à l'égard de ceux qui n'écouterait pas la parole de Dieu, et de malédiction à l'égard de ceux qui s'éloigneraient de Dieu. Deutéronome 28 nous donne des bénédictions et des malédictions, des bénédictions qui disent, voilà, si tu obéis bien à la parole de Dieu, si tu écoutes cette parole, si tu vis dans la proximité de Dieu, alors toute ta vie sera bénie et ce sera tout ce que tu fais, chaque geste, tout sera rempli de la bénédiction de Dieu et toutes sortes de biens en découleront. Mais il dit, si tu oublies cette parole, si tu t'éloignes de Dieu, si tu la refuses, alors Dieu te donnera toutes sortes de maux que je vous passe en silence, mais en particulier la fièvre. Voilà. Alors c'est un passage dur. C'est un passage un petit peu dur, je dois l'avouer, parce qu'il est question là de jugement, de condamnation et de malédiction. On y voit un Dieu qui punit et qui récompense, et nous n'aimons pas trop ça. Cela dit, c'est vrai que c'est aussi le cas dans bien des passages de l'Évangile de Matthieu. Souvent dans Matthieu, D'après Matthieu, Jésus dit « Si vous faites ci, grande sera votre récompense, et si vous ne faites pas comme il faut, vous serez jeté dans le feu de la géhenne, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Mais en même temps, je pense qu'il faut, là encore, prendre un peu de distance par rapport à cela, et je ne pense pas que les auteurs du Deutéronome aient pensé une minute que les païens aient plus la grippe que les juifs. C'est-à-dire qu'il suffirait d'être fidèle à Dieu pour ne pas attraper la fièvre. Je ne pense pas qu'ils aient jamais pensé cela. Et je ne pense pas non plus d'ailleurs qu'il faille l'interpréter de cette manière-là. Mais qu'en général, dans l'Ancien Testament, quand il est question de ces punitions, ce n'est pas pour dire que Dieu punisse, mais c'est pour évoquer d'abord des conséquences inévitables. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on a un peu tendance à tout attribuer à Dieu, le bien comme le mal. Alors que dans le Nouveau Testament, on attribue plutôt le bien à Dieu et le mal au cours du monde, ou alors à nos propres erreurs. Et en effet, on peut le lire comme ça, en disant, si vraiment vous cherchez Dieu, et si vous cherchez Dieu, si vous êtes dans cette quête, dans cette fidélité à cette parole de l'Évangile, par exemple, qui nous invite à vivre de service, de pardon, d'amour, de grâce, eh bien moi je vous le dis, votre vie sera illuminée. C'est pas que Dieu distribue les prix aux meilleurs élèves, c'est que c'est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous savez aimer, pardonner, servir et être un être de grâce dans ce monde, votre vie sera une bénédiction, mais dans tout ce que vous ferez, dans ce que vous ferez de matériel, dans votre travail, dans votre famille, dans vos amis, tout cela, ce sera une bénédiction. Et si au contraire, vous vivez loin de cela, et si vous vous attachez non pas à cette bonne nouvelle de l'Évangile, mais à une parole de haine, de punition, de violence, de vengeance, de loi du plus fort, de donnant-donnant, eh bien, c'est pas, Dieu ne vous punira pas, mais moi je vous le dis, vous vous préparez une sacrée vie de mélasse, voilà. Et votre vie ne sera qu'une malédiction permanente, dans vos enfants, dans votre famille, dans vos amis, dans vos relations, dans votre travail. Eh bien c'est tout, la Bible nous met face à une réalité, si vous voulez. Certes on est sous la grâce, mais il n'empêche qu'il y a quand même des chemins qui vont vers une vie plus ou moins heureuse ou épanouie. Alors ça, c'est, je crois, quelque chose de vrai, et simplement, je pense qu'il y a là une différence d'expression entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament présente ça comme si c'est Dieu qui punissait l'erreur, alors que le Nouveau Testament dit plutôt que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, si on lit Marc, avec ses petites guérisons, on voit bien que la belle-mère de Pierre, elle a une fièvre. Et pourquoi ? Eh bien, c'est comme ça. Voilà. On ne dit pas que c'est Jésus qui lui a envoyé la fièvre parce qu'elle aurait été, elle aurait dit un mot de travers à l'égard du Messie. Bon. Mais parce que c'est comme ça. Et Dieu, qui est là représenté par Jésus, n'est pas celui qui envoie la fièvre dans Marc. Il est celui qui l'a guéri. Et donc, vous voyez un changement de paradigme, dirais-je, c'est que dans le Nouveau Testament, Dieu n'est jamais source de malédiction. Mais il est au contraire source de bénédiction. Il n'est pas celui qui envoie l'épreuve ou qui envoie le mal, mais il est celui qui libère de l'épreuve et du mal. Et donc j'aime cette espèce de yin et de yang qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la fièvre n'est évoquée que pour évoquer une punition de la part de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la fièvre n'est évoquée que pour évoquer une libération de la part de Dieu. Et donc voilà, Dieu est celui qui nous libère de l'épreuve, celui qui nous libère du mal, celui qui nous libère même peut-être des conséquences de notre propre mal, et pas celui qui l'envoie. Mais alors reprenons quand même en détail, quelle est la nature de cette fièvre ? Et quel est ce mal possible qui puisse toucher celui qui s'éloigne de Dieu et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour trouver le sens plus précis de cette fièvre, je suis allé dans les vieux commentaires de la tradition rabbinique et en particulier Rachi qui était un juif donc du Moyen-Âge, originaire de Troyes, en Champagne, et qui a fait un commentaire de tout l'Ancien Testament qui est éblouissant. Et Rachi, dans son commentaire du Deutéronome, parle évidemment de cette fièvre qui est montrée comme une des conséquences possibles donc de l'éloignement de Dieu. Et il dit, la fièvre, c'est comme un feu intérieur que donnerait une soif perpétuelle et inextinguible. Et je pense que ça peut être assez vrai. C'est que loin de Dieu, on n'attrape pas la grippe, je vous rassure, mais on risque d'être soumis au désir matériel, au désir de possession, de puissance, de pouvoir, et que ces désirs matériels sont des désirs sans fin et qui ne peuvent jamais laisser en paix. Autrement dit, on pourrait le montrer un peu comme on parlerait aujourd'hui de la fièvre de l'or. La fièvre de l'or, celui qui en veut toujours plus. Et il est vrai que le propre du désir matériel, c'est d'être sans fin. Et l'enfant qui désire telle chose pour Noël, le jour où il l'a, ne rêve que d'une chose, c'est d'en avoir une autre. Et de même que l'employé, et les syndicats jouent là-dessus, dès qu'on lui accorde une augmentation, ne désire qu'une chose, c'est d'en avoir encore plus. Et donc on veut toujours plus d'argent, on veut toujours plus de réussite, plus de reconnaissance, plus de possession, une plus jolie voiture, une plus grande maison. Et donc c'est là un désir sans fin, et le désir matériel est comme une fièvre, comme la fièvre de l'or, qui fait qu'on est toujours dans une soif de quelque chose, et on ne peut jamais trouver le repos de l'âme dans cette quête des désirs matériels. Alors Jésus, de ce côté-là, est bien celui qui nous guérit de cette fièvre, c'est-à-dire de cette folie du désir exalté, et Jésus est celui qui est capable de nous donner, quelle que soit notre situation matérielle, une sorte de sentiment de plénitude, en disant « j'ai ce qu'il me faut et j'en ai assez pour me coucher repu ce soir et pour vivre heureux aujourd'hui ». Parce que, effectivement, il nous montre que la vie n'est pas que ce désir matériel et qu'il peut nous donner un accomplissement qui véritablement mène non pas à un autre désir qui nous ferait vouloir aller encore plus loin, mais au contraire à être bien là où l'on est. C'est ce qu'il dit à la Samaritaine. « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, dit Jésus, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est-à-dire que justement, on n'est plus dans la fièvre et dans l'embrasement, mais dans la satisfaction. Et je crois que ça, c'est vrai, et c'est même plus que cela. Parce que on voit la manière avec laquelle Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Donc, il lui donne, je dirais, la grâce et la plénitude du bien-être et de la vie. Mais c'est assez étonnant parce que, contrairement au Deutéronome, une fois de plus, il lui donne sans condition. Il ne dit pas à la belle-mère de Pierre, « Écoute, si tu as une fièvre, tourne-toi vers moi, crois dans la grâce, fais des bonnes œuvres, et alors tu pourras enfin peut-être trouver la fraîcheur dans ta vie. » Simplement, elle est là, elle souffre, et Jésus la guérit. Il agit par amour, sans jugement et sans condition. Peut-être que cette femme souffre, et si cette fièvre était intérieure, probablement était-ce de sa faute, dans cette quête sans fin, je vous l'ai dit. Mais là, il le fait gratuitement. Comme je dis Jésus, celui qui croit en moi, il n'est pas jugé. Il est passé de la mort à la vie. Voilà. Ainsi, il y a quand même une seule chose demandée, c'est que le texte nous dit qu'il lui tendit la main. Et donc, on demande juste que la belle-mère prenne la main qui lui soit tendue. Ça peut être, je dirais, la vision qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui de la grâce. La grâce ne nous demande pas nous-mêmes d'être parfaits ou d'accomplir de grandes choses, mais d'accepter, de l'accepter, de dire oui à cette grâce. Et la foi, c'est peut-être ça, de dire oui Seigneur, j'accepte, je prends cette main tendue que tu me donnes. Et vous disais-je, non seulement Jésus est source de bénédiction, et en plus il va donc annuler cette malédiction qu'est la fièvre. Alors je vous l'ai dit, cette fièvre peut être vue comme une, symboliquement comme une des conséquences du péché, c'est-à-dire de l'éloignement de Dieu. Et là, Jésus la guérit et enlève ce mal qui pourtant serait mérité, apparemment, d'après l'Ancien Testament. Et là, je m'identifie assez bien à cette belle-mère de Pierre. Parce que, quand je vous ai dit la fièvre comme punition de celui qui oublie la parole de Dieu, ben Seigneur, je l'avoue, souvent j'oublie la parole de Dieu. Soit que je n'y pense pas, soit que ben, je la connaisse bien, mais que je ne l'applique pas. Et j'ai beau dire, le chemin du bonheur, de la vérité, c'est de vivre de paix, de service, d'amour et de générosité. Je ne peux pas dire que ma vie soit tout entière amour, paix, service et générosité. Donc finalement, dans les deux chapitres, bénédiction et malédiction, finalement, je suis peut-être plutôt dans le deuxième. Et donc oui, nous tous, nous oublions Dieu. Et nous tous, et moi le premier, nous devrions être jugés pour ce que nous sommes. Et donc nous mériterions les pires souffrances et la mort. Et Jésus, lui, nous libère et il nous guérit. Et il nous fait passer de la vie, de la mort à la vie. C'est-à-dire que c'est véritablement une résurrection dont il s'agit. Et d'ailleurs, le terme s'y trouve. Jésus nous dit, le texte nous dit, Jésus prit la belle-mère par la main et il la releva. Et ça, c'est un peu connu pour ceux qui fréquentent nos églises. Le mot « relever » est le mot technique dans la Bible pour dire la résurrection. On dit la relevée des morts et pas la résurrection. Donc il l'a fait passer de la mort à la vie. Comme Paul dit dans Éphésiens 2, ce grand chapitre sur la grâce, il dit « Nous sommes ressuscités avec lui parce que dans le fond, par notre péché, nous sommes tous morts et nous méritons tous d'être condamnés. Mais grâce au Christ, nous sommes ressuscités. » Il ne dit pas « Nous ressusciterons plus tard ». Il dit « Nous sommes relevés et nous sommes passés de la mort à la vie ». C'est-à-dire que notre péché nous condamne, mais que le Christ est plus fort que notre faiblesse et il nous sauve. Et il arrive à nous offrir par grâce ce que nous ne méritons pas. Et ça va même plus loin parce que j'ai donc cherché dans tous les détails, je vous l'ai dit. La fièvre, j'ai trouvé. Maintenant, pourquoi la belle-mère ? La belle-mère, ça, c'est, je vous fais une petite leçon d'hébreu, c'est tout à fait inattendu. La belle-mère, en hébreu, ça se dit chamot. Et chamot, ça vient de cham, qui veut dire chaud bouillant, très chaud. C'est quand même étonnant, ça. Ça n'est pas un hasard, évidemment. Ça veut dire que cette belle-mère, c'est une personne qui, en elle-même, est chaude et bouillante, donc elle boue comme la fièvre, c'est sa nature. Autrement dit, je dirais que tout à l'heure, j'ai laissé évoquer que peut-être cette fièvre était symboliquement la conséquence de son péché, c'est-à-dire de son erreur, de s'être mal orienté dans sa vie, et que ça mène en elle une sorte de fièvre intérieure qui l'empêche d'être en paix. Mais ce n'est pas que ça. Elle est par nature fiévreuse. Et nous sommes nous tous, par nature, chaud bouillants. Ce n'est même pas sa faute. Elle est comme ça. Ça la dépasse. Et nous, notre égarement est constitutif. Il vient de l'imperfection humaine, il vient de cette faiblesse qu'est la nôtre, dès notre enfance, dès notre naissance. C'est ce que les théologiens appellent, dans certains cas, le péché originel. Donc voilà, vous êtes tous imparfaits et tous incapables de mériter ces bénédictions du Deutéronome. Parce que ces bénédictions, nous sommes tous pécheurs et incapables d'agir parfaitement bien. Et le Christ nous libère de cela. C'est-à-dire qu'il nous sauve alors que par nous-mêmes, nous ne devrions être que condamnés par Dieu, condamnés à la souffrance et à la mort. Et l'Évangile commence par là, justement. Il commence par dire, par nature, vous êtes tous pécheurs, mais déjà, ce que fait Dieu, c'est qu'il ne tient pas compte de votre erreur, de votre imperfection, et tout cela est balayé. Alors certes, vous pouvez avoir les conséquences de votre façon d'être dans le monde, mais en tout cas, de la part de Dieu, il n'y a pas de jugement. Et Dieu lui-même, il vous accueille, il vous accepte. Et Dieu lui-même ne vous envoie pas de punition, Dieu lui-même ne vous envoie aucun mal, et Dieu lui-même, il ne vous envoie que du bien et que de la grâce, et que la possibilité même d'être heureux et en paix avec lui, même si votre foi n'est pas rayonnante et resplendissante. Et c'est donc Vous voyez quelque chose d'important qui n'est pas un petit miracle d'hiver sans importance. C'est là quelque chose d'essentiel. Et puis le texte continue et nous parle encore de cette belle-mère. Et on nous dit que cette belle-mère de Pierre, eh bien, elle a suivi Jésus pour le servir. Alors là, c'est passionnant, c'est tout l'évangile qui est résumé dans cette petite péricope, parce que la belle-mère de Pierre aurait certes pu rester chez elle sans rien changer. Là, on nous dit après qu'elle fait le bien. Et on est dans le contraire du Deutéronome. Dans le Deutéronome, on dit « si tu fais le bien, tu seras sauvé ». Et là, la belle-mère, elle est sauvée d'abord, et parce qu'elle est sauvée, parce qu'elle est aimée, parce qu'elle est sous la grâce, elle va faire le bien. Mais sans raison, puisque Jésus ne lui demande rien. Elle aurait pu rester chez elle. Et au contraire, Jésus ne lui demande rien, mais il ne la relève pas pour lui créer une dépendance, il ne l'exige pas qu'il le suive. D'ailleurs, Jésus ne reste même pas dans la maison, puisqu'on nous dit qu'ensuite il s'en va vite ailleurs. Mais, une fois relevée, la belle-mère de Pierre va le suivre pour le servir. Et ça, c'est sans doute, vous voyez, l'inversion de dire « si nous faisons le bien, c'est parce que nous sommes aimés ». Et donc, le bien que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire d'une façon intéressée, en se disant « si j'étais plus généreux dans ma vie, peut-être que je serais plus heureux ». Mais c'est d'abord, la clé, c'est ça, d'abord de se dire « il y a un Dieu qui vous aime, qui vous libère, qui vous pardonne et qui dit « je sais très bien que tu es imparfait et que tu es par nature pécheur, mais moi, je te libère de tout cela ». Et donc, on remet les compteurs à zéro. Et que du coup, ça mette en nous un tel esprit de reconnaissance et de joie qu'on dise « mais Seigneur, je n'ai qu'une envie, c'est à mon tour de te servir », c'est-à-dire d'être à mon tour un serviteur de la grâce, de l'amour et de la libération dans ce monde. Et ça, c'est tout le message de la Réforme, qui en effet, vous savez, a balayé la vieille prédication médiévale qui essayait de terroriser les gens en disant « il y aura un jugement ». Si vous faites le bien, vous irez au paradis, sinon vous irez en enfer. Et comme vous êtes pécheur par nature, vous irez au purgatoire, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Vous allez souffrir pendant des années pour essayer de payer vos fautes. Et la Réforme dit, attendez, laissez tomber cette histoire de purgatoire. Et laissez tomber cette histoire de menace, mais simplement nous disons, vous êtes sauvés par grâce. C'est le cadeau de Dieu, c'est sa volonté. Et en reconnaissance pour ce salut qui vous est offert, faites des bonnes œuvres. Gratuitement, pour rien, mais parce que votre cœur sera joyeux et reconnaissant. Et donc oui, l'idéal c'est ça, c'est que nous servions le Christ, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Et il y a au début de cet évangile de Marc, ce message extrêmement fort et radical de la grâce de Dieu qui renverse toutes les logiques, j'allais dire même de l'Ancien Testament, de ses menaces de bénédiction et de malédiction, en disant « Jésus, il est gratuitement celui qui offre la bénédiction, gratuitement celui qui nous libère de toute malédiction, et bien maintenant, allez-y, mettez-vous sur le chemin, mettez-vous en route, et parce qu'il vous a aimé gratuitement, donnez gratuitement, parce qu'il vous sauve. Il nous libère de toute condamnation, alors nous ne pouvons que désirer le servir et l'annoncer. » Et c'est pourquoi nous pouvons louer le Seigneur par son Fils Jésus-Christ pour cette relevée, cette résurrection, cet être neuf qu'il met en nous chaque jour pour le servir gratuitement. Et nous voulons pour cela que chacun de nous sachions le suivre et le servir de tout notre cœur. Et que nous puissions être ainsi, à la suite de cela, en reconnaissance pour cet amour inconditionnel qui est comme une main tendue qui nous relève pour la vie, pour notre plus grande bénédiction et pour la bénédiction de tout ce que nous faisons et de tous les êtres qui seront autour de nous. Amen.